Nous pouvons reprendre, si vous voulez bien. Alors, notre invité d'aujourd'hui est Henri Racimoff. J'avais beaucoup de raisons pour choisir de l'inviter dans ce séminaire. Il a écrit beaucoup de livres, mais je ne les ai pas tous lus, et donc je vais dire les raisons pour lesquelles il me paraissait bien convenir. Je connaissais une belle biographie, je crois que c'est le premier livre de lui que j'ai dû lire, c'est une biographie de Maurice Sachs, publiée en 1988, donc il y a un peu plus de 20 ans. Voilà donc un biographe dans un séminaire intitulé « Écrire la vie », puisque je crois que c'est notre titre, « Témoigner »,« Écrire la vie et témoigner », il me semble qu'il était bon d'avoir quelqu'un qui s'est exercé à la biographie. Et puis, il a écrit deux livres qui me plaisent beaucoup, parce que ce sont des biographies assez libres, en même temps savantes, avec un certain nombre de choses qui ont beaucoup intéressé les Proustiens et libres de ton. L'une qui s'appelle « Le signe de Proust », publiée en 1989, qui est donc sur Charles Haas, modèle de Swann. Et d'autre part, un livre qui s'appelle « Blum et Bloch », donc « Variation de fiction sur le personnage de Proust et sur le personnage de Joyce. » Et puis, après que je l'ai invité, il m'a envoyé récemment un livre alors que je ne connaissais pas et dont j'ai déjà parlé il y a une ou deux séances, qui est intitulé « Reliques », publié chez Gallimard en 2005, qu'il a apporté, et qui est un récit de soi avec photographie. J'en ai parlé il y a deux ou trois séances de ce genre qui me paraît assez nouveau. Je ne sais pas très bien de quand il date, mais peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler, et qui, me semble-t-il, est de plus en plus répandu en France, mais qui est aussi, qui se répand aussi en anglais. J'avais cité, quand j'avais parlé de ça, les romans de Sebald avec l'introduction de ses vignettes, ou le livre de Daniel Mendelssohn, Les Disparus, enfin toute une série de récits avec photographie. Et l'importance dans ces récits de la référence à ce dont il n'y a pas de photographie, justement, et qui est la Shoah. Et ce petit livre, Reliques, commence par une photographie de famille montrant justement des disparus de la famille. Et vous nous avez donné comme titre aujourd'hui un titre qui réunit en vérité tous les fils de l'intérêt que j'avais en vous invitant dans le cadre de ce séminaire, puisque vous avez donné comme titre « Proust, la mémoire, la Shoah ». Et je crois que ça rejoint donc toutes nos préoccupations. À vous.
Merci Antoine. Ah voilà. Je voulais commencer donc cette intervention en évoquant ce petit livre dont vous venez de parler, qui s'appelle Reliques, que je vous montre, que j'ai publié en 2005, dont le titre m'avait un petit peu gêné, même s'il s'est imposé aussitôt. S'il m'a gêné, c'était à cause de sa connotation catholique, mais je n'en ai pas trouvé d'autre de titre. Il aurait peut-être fallu, j'y ai songé, appeler ce livre « Chaïmès », c'est un mot yiddish qui vient de l'hébreu « Shemot », les noms. Les noms sont un livre biblique. Et ce mot yiddish de « Chaïmès » désigne tout texte écrit par les victimes de la Shoah, mais aussi tous objets, livres, lettres, journaux intimes, poèmes, photos, toutes choses rescapées du génocide et ayant par là une valeur sacrée. Mais appeler un livre Chaïmès, on n'aurait pas bien compris. Ce qui est en tout cas intéressant ici pour moi, c'est cette proximité que marque le yiddish entre les reliques, restes et déchets de la catastrophe, et les noms, également d'essence sacrée. Dieu, comme on sait, n'a pas de nom. On l'appelle précisément le nom, Hachem. La première photo de relique inaugurale est en effet, comme vous le disiez, une scène de massacre, une photo ayant appartenu à un grand-oncle qui me l'a transmise, et à peu près incompréhensible, indéchiffrable, si elle n'est pas légendée, ce que je fais en regard. Cette photo qui précède ma naissance donne le « là » au livre, fournit la clé de son ouverture, l'autre clé étant la mort, au sens où l'a définit Marguerite Duras dans « L'Amant », phrase que je cite en exergue, « Je me suis dit qu'on écrivait toujours sur le corps mort du monde et de même sur le corps mort de l'amour. » Et puis, j'ai choisi symboliquement pour la couverture une œuvre de Christian Boltanski de 1970 intitulée « Boîte de biscuits étiquetées jour par jour » qui figure des sortes de boîtes d'archives empilées contre un mur. Cela m'a paru rendre compte exactement de ma démarche. Celle-ci a consisté à sélectionner des boîtes de biscuits, entre guillemets, de ma mémoire familiale et personnelle, des documents, essentiellement des photos, mais pas seulement, des lettres par exemple, et à les commenter. Recoller les morceaux, légender, j'aurais pu aussi appeler ce livre légende. Quelquefois, on ne peut pas légender, il n'y a rien à dire. On devrait ressentir une émotion, et pourtant, on ne ressent rien. Je me souviens avoir lu un très beau récit de déportation intitulé « Refus de témoigner » de Ruth Kluger. À un moment, elle s'interroge sur son père disparu. Elle se demande « Comment célébrer mon père ?» Je peux le nommer par son nom et c'est tout. Il s'appelait Victor. Je me suis demandé pourquoi, dans Relique, il n'y avait pas une photo de ma grand-mère paternelle disparue à Auschwitz. C'était précisément là l'endroit idéal, si je puis dire, pour la célébrer, la renommer, la faire vivre. Recoller son nom, son visage et sa légende. Eh bien, je n'ai pas pu, car cette grand-mère, qui s'appelait Rivka, par définition, je ne l'ai pas connue et je ne sais rien d'elle. Mon père ne m'a jamais parlé d'elle et je sais exactement pourquoi. Parler d'elle, pour lui, ça aurait été reconnaître son absence, admettre qu'il ne la reverrait plus jamais. Donc il a préféré ne jamais parler d'elle et attendre encore, décennie après décennie, son retour de déportation. Si bien que cette grand-mère représente pour moi une pure absence, un blanc, un vide, un creux, une image non légendable qui n'appelle pas de mots. Les documents que je donne à voir dans Relique ne sont pas nécessairement les plus beaux, ni les plus spectaculaires, ni les plus intéressants pour l'histoire. Ce sont ceux qui, en les revisitant, me procurent l'émotion la plus vive, quelque chose comme ce que Barthes appelait un sentiment de pitié. J'y reviendrai. C'est une façon pour moi d'enterrer mes morts. Plus on vieillit, plus on a de morts à traîner, avec lesquels on n'est pas forcément en paix. Comme le dit Duras, il y a la mort et il y a l'amour. Nos morts et nos amours mortes. Ici, je les enterre, je leur dresse un petit monument à la Boltanski. Je les mets dans une boîte, j'allume une bougie. Ces boîtes et ces bougies, ce sont pour moi des mots, porteurs de sentiments, qui n'en sont pas toujours d'amour, qui peuvent être ambivalents, comme la jalousie, par exemple. Et puis je lance le livre comme une bouteille à la mer pour l'éternité. Parler de ce livre est une chose un peu embarrassante. Pas question, d'une part, de le paraphraser, de le répéter en le banalisant, en le trivialisant par la parole. Pas question d'en parler comme d'un objet extérieur, comme si je devenais le lecteur de ce livre et non son auteur. Je préfère, à tort ou à raison, tenter de cerner les soubassements théoriques et personnels qu'il explique en quelque sorte, qui en indique la portée essentielle, qui est en effet prise dans l'histoire. Le premier document, la photo de massacre en Pologne dont j'ai parlé, date de 1939. Le dernier, c'est la photo d'un groupe d'amis lors d'un colloque sur la Shoah qui eut lieu à Cerisy-la-Salle en 1998. Ce livre va donc de la guerre à la guerre, ou pour le dire plus nettement, de la Shoah à la Shoah. Et ce thème ponctue l'ensemble. Carte postale ouverte de l'époque de Vichy, carte postale ouverte envoyée d'un ghetto de Pologne, écrite à ma grand-mère Mania par une grand-tante en polonais, etc. Et en somme, si je refeuillette ce petit ensemble, je constate que tout, plus ou moins, directement ou non, renvoie à cette période de l'histoire. Même l'évocation que je fais d'un camarade trotskiste de mes années lycéennes ou étudiantes, autour de mai 68, de mon amour pour l'actrice Tatiana Samoïlova dans « Quand passent les cigognes », d'une amourette de colonie de vacances, Anna Bialobroda, dont je savais qu'elle était née en Pologne, à Lodz, en 1946, du faire-part inséré dans Le Monde du décès de ma mère en 1996. Chaque séquence, dans son choix, est ici surdéterminée. Par exemple, ce qui me touche dans la photo d'Anna Bialobroda et de moi, en 1962, ce n'est pas seulement le souvenir ému d'une amourette d'adolescence, c'est cette connaissance supplémentaire des circonstances de sa naissance, Lodz 1946, qui font que je songe aussitôt au sort de ses parents, m'interroge sur la façon dont ils ont passé la guerre dans cette horreur que fut la Pologne entre 1939 et 1945. De même, ce camarade trotskiste de 68 est un souvenir surdéterminé par la connaissance que j'ai que son père avait été dans les brigades internationales en Espagne, puis un des responsables de la MOI en France, où était mon père également pendant la guerre. Et de là, je songe à mon père pendant la guerre, FTP-MOI, à Lyon et à Grenoble, à la déportation de sa mère à Auschwitz, etc. Et de même, pour le faire part du décès de ma mère, que j'avais rédigé moi-même, j'avais tenu à ce que figure le rappel de son frère, dont je porte le prénom, Henri Davidovitch, englouti à Majdanek. Je pourrais dévider les mêmes associations avec la photo de Tatiana Samoïlova, où je lis non seulement mon amour d'enfance pour cette actrice, mais aussi la guerre patriotique, Staline, l'armée rouge, l'engagement communiste de mon père après la guerre, la prise de Berlin, l'arrivée de l'armée rouge à Auschwitz, etc., et les disques que nous avions à la maison des chœurs de l'armée rouge, et ainsi de suite. Inutile de dire que rien là ne fut prémédité, que tous mes choix de documents sont issus d'émotions spontanées et que ce n'est pas mon souci d'histoire qui a présidé à ces choix. Relique parle donc d'amour et de mort, mais aussi de littérature, ou plutôt de la question de savoir comment la littérature, pour moi, peut parler des amours et des morts qui jalonnent nos vies, et aussi de ce que j'appelle dans ce livre des temps morts, mes temps morts, c'est-à-dire du sentiment de l'irrémédiable, de ce qui ne reviendra plus jamais et qui est voué à l'effacement. C'est donc un livre qui se construit, qui se bricole sous mes yeux et sous les yeux du lecteur. C'est un livre tout simple. Il y a l'amour, il y a la mort, il y a l'écriture, la trace de ce qui fut, de ce qui est mort. La trace d'abord du nom propre et la trace du visage. C'est l'originalité, si l'on veut, de ce livre, de donner à voir le nom propre et le visage en vis-à-vis. C'est pour moi la tâche de l'écrivain de renommer les morts et aussi les encore vivants, c'est-à-dire les morts en puissance, y compris son propre nom. Se faire un nom, cette expression un peu vulgaire, c'est tenter de sauver son nom, une façon d'avoir un peu pitié de soi. Roland Barthes a une page magnifique dans La Chambre claire, dans laquelle il tente de démêler ce que certaines photos ont pour lui de poignant. Il croit pouvoir d'abord assimiler ce sentiment à une souffrance d'amour. Et puis non, ce n'est pas ça. C'est, dit-il, une vague plus ample que le sentiment amoureux. Il poursuit, dans l'amour soulevé par la photographie, par certaines photos, une autre musique se fait sentir, au nom bizarrement démodé, la pitié. Et il associe ce qu'il ressent alors avec l'impulsion qui s'était emparée de Nietzsche, se jetant en pleurant au cou d'un cheval martyrisé. Il était devenu fou pour cause de pitié. J'avais tenté naguère, dans un essai qui s'intitule « Le signe de Proust », dont on a parlé, de renommer un personnage célèbre en son temps, Charles Haas, le modèle proustien de Swann, donc. Ce Charles Haas était devenu ce que Modiano appelle, dans « Rue des boutiques obscures », un homme de plage. Qu'est-ce qu'un homme de plage ? Nous regardons une photo représentant des gens au bord d'une piscine. Aujourd'hui, des décennies plus tard, ils sont tous morts. Mais certains de leurs descendants pourraient encore les reconnaître, les identifier, les nommer. À la génération suivante, avec la mort de ces témoins, c'est fini. Les gens sur la photo tombent dans l'anonymat définitif, c'est-à-dire qu'ils meurent pour de vrai. C'est ça l'effacement. Ils sont définitivement effacés de toute mémoire possible. Ce n'est pas tant le scandale de la mort, pas tant que le corps devienne poussière, que cette seconde mort qu'est l'oubli, où le nom propre se trouve pulvérisé, devenu lui-même poussière. Ou bien nous feuilletons un livre, une biographie, des mémoires qui comportent un cahier de photos, nous nous attardons sur l'une d'elles, et une légende au-dessous nous fournit l'identité de tous ces gens, sauf l'un d'eux, désigné par la mention « un inconnu ». C'est celui-là que Modiano appelle « un homme de plage ». Nous serons tous, un jour ou l'autre, des hommes de plage, sauf si l'on s'appelle Victor Hugo ou le général de Gaulle. Dans la recherche, Proust a voulu, avant moi, renommer Charles Haas, qu'il connaissait si peu et qui le fascinait. Il le dit explicitement, « Peut-être que grâce à moi, à la faveur de mon livre, vous vivrez. » L'ennui, c'est qu'il en a fait le personnage fictif de Charles Swann. Et nous sommes peu à savoir que sous le fictif Swann gît le réel Haas. Il n'y a que lui, Proust, qui le savait, et quelques contemporains qui ont aussitôt reconnu, sous la création romanesque, le personnage réel. Cette connaissance-là, à la fois dérisoire, indifférente, et à mes yeux tragique, s'est effacée avec la mort des contemporains. Ainsi, contrairement à la prétention un peu magique de Proust, la création échoue à préserver la figure et le nom. Ou bien elle préserve l'une des faces, l'une de ses faces, elle dissocie le signifiant patronymique du référent en chair et en os. Tout ce qu'elle parvient à préserver, dans le meilleur des cas, et pour un temps aléatoire, c'est son propre nom, le nom propre de Montaigne, de Stendhal, de Proust. J'ajouterai un écrivain qui me touche comme eux, Roland Barthes. Le livre, le roman, ne préserve pas le nom. Il fonctionne ainsi comme un cimetière. Lire un livre ou visiter un cimetière, c'est un peu la même chose. Je pense au cimetière du Père-Lachaise, au cimetière de Montmartre ou du Montparnasse, dont je visite les carrés juifs. Je passe dans les allées et je ne peux m'empêcher de décrypter systématiquement les noms que je prononce dans ma bouche, pour moi seul, un peu magiquement, comme si je voulais ressusciter la personne, lui redonner chair, comme si je me l'imaginais à partir de son nom. Son nom est le début d'un livre, son nom est tout entier un livre, mais un livre effacé ou voué à l'effacement, où l'effacement se donne à lire. Sur les pierres tombales, je vérifie les liens de parenté entre ces noms, je tente de reconstituer les généalogies de ces familles israélites. J'ai plus de mal à le faire quand je suis au cimetière de Bagneux, où je lis pareillement les noms, des noms affectés d'autres consonances. Je passe et je repasse entre les allées, où j'ai de la peine à m'attarder, à m'arrêter sur les noms, surtout les noms des enfants morts avant l'âge, car je pense alors aux enfants morts à Auschwitz. Bagneux, c'est pour moi une mort redoublée. sans doute parce que ce sont mes morts à moi, les Israélites de Montmartre, du Père Lachaise de Montmartre, ne sont pas mes morts à moi. Ce sont des noms d'emblée romanesques, de la parentèle, de la sociabilité, de l'imaginaire de Proust, les Veil, les Bloch, les Haas, les Effroussi, les Reinach, les Brunswick, les Dreyfus, les Bernkastel, les Blum, les Halévy, les Strauss, les Braque, les Crémieux, les Finali, les Berle. Les cimetières sont par excellence les lieux voués à l'effacement. L'effacement n'est pas exactement la mort, c'est la mort redoublée. Cette comparaison du livre et du cimetière, je la trouve comme par hasard chez Proust. Un livre, écrit-il, est un grand cimetière où sur la plupart des tombes, on ne peut plus lire les noms effacés. Tout livre est un palimpseste, comme le rêve d'ailleurs. Un rêve non interprété est comme une lettre non lue, peut-on lire dans le Talmud. Cette histoire de lettre non lue, parce que non reçue, fait penser évidemment à Bartleby, le personnage que conçut Melville en 1856. On s'en souvient, Bartleby, c'est celui qui répond devant chaque demande sociale ou professionnelle « I would prefer not to ». J'aimerais mieux pas. À la fin de ce court récit, le narrateur rapporte la rumeur selon laquelle Bartleby aurait été clerc subalterne au bureau des lettres mortes à Washington. Cette perte de la lettre, la missive, la dead letter de Melville, c'est ça l'effacement. Le livre est un palimpseste donc, mais d'une certaine façon définitivement illisible, indéchiffrable. Les noms des personnages romanesques masque souvent des noms réels. C'est un peu le sens de ce récit de Henry James, l'image dans le tapis. L'œuvre renferme, solée, un motif en son sein, que seul l'auteur connaît et dont le secret le suivra dans la tombe. Plus tard, quelques érudits perspicaces parviennent partiellement à percer ce secret de fabrique. Mais pour la plupart des lecteurs, il n'y a même pas le pressentiment d'un secret. Le pressentiment que sous les noms des personnages, il y a d'autres noms de gens morts depuis longtemps et que pour l'écrivain seul, ces noms fictifs ont pour mission de sauver de l'oubli, mais qu'ils ont en même temps pour fonction, pour des raisons complexes, de gommer, de recouvrir, de masquer, d'effacer. Chez Proust, le nom de Swann prétend sauver celui de Haas. Or, en fait, par Swann, Proust efface le nom de Haas. L'élégant signe anglais efface le ghettoïque lièvre allemand et juif. C'est cela l'objet de mon essai, le signe de Proust. Cette problématique me semble parfaitement illustrée aujourd'hui par l'œuvre de Christian Boltanski et ses installations d'urnes, parfois sous forme de cartons à chaussures, ces cartons où l'on range pêle-mêle nos photos de famille. De photomatons assortis de noms, de dates lacunaires ou de photos d'amateurs entassées, surmontées de petites auréoles de lumière rasantes, comme pour leur conférer de la sainteté, des ex-votos anonymes. Sainteté de l'anonymat, du déchet, de ce qui est voué à la mort, et plus encore à l'oubli, à l'effacement, c'est-à-dire à la dissociation des trois pôles du triangle identitaire, le nom, le visage, la légende, c'est-à-dire le souvenir. Les romans de Patrick Modiano, d'un autre côté, me semblent également participer de cette problématique de la mémoire et de l'oubli, de l'effacement. Il travaille, comme on sait, sur les traces, sur la mémoire réduite à des indices flous, en somme sur l'oubli. L'oubli est la mort à l'œuvre dans la vie. Il y a à la fois l'oubli des impressions du passé, comme chez Chateaubriand, et l'oubli du passé tout court. Avec la succession des générations, les nouveaux venus ne peuvent imaginer comment c'était et trouvent en général par principe dérisoire de chercher à se demander aujourd'hui qui hier était qui. Modiano s'inscrit, comme Proust avant lui, dans cet espace de l'effacement. Les romans de Modiano sont truffés d'adresses et de numéros de téléphone réels, réels mais caduques. Le romanesque s'empare alors de l'absence qu'il présentifie. Il n'y a plus d'abonnés au numéro demandé, et l'écrivain se donne alors la tâche, comme une mission un peu sacrée, de renommer l'anonyme, de désanonymer. Telle année, dans l'annuaire, on lit encore le nom de Bruder. L'année suivante, ce nom n'y est plus. Et à partir, et de partir, à la recherche de Dora Bruder, en inscrivant dûment ce parcours. Cela ne fait pas que Dora Bruder, 41 boulevard d'Ornano à Paris, puisse revenir d'Auschwitz, où à 15 ans elle est partie de Drancy par le convoi du 18 septembre 1942, mais par la vertu de la littérature, son nom, pour nous, est désormais immortel. L'effacement, au sens où je l'entends, est donc à l'œuvre dans le livre, sur les tombes des cimetières, mais aussi avec la photographie dite quelconque. Roland Barthes a réfléchi, comme on sait, sur la valeur que son imaginaire impartissait à la photo d'amateur. Elle et elle seule incarnent à ses yeux l'essence de la photo. Il écrit sur ce sujet des choses proches de Proust, qu'il connaît par cœur, mais aussi proches de Modiano et de Boltanski, dont j'ignore s'il les connaissait vraiment. La photographie, dit Barthes, est fondamentalement liée à la mort, dans tous les sens possibles. D'abord parce qu'elle a vocation à terminer sa vie, si l'on peut dire, aux ordures. Je ne puis transformer la photo qu'en déchet. Quelle signification aura la photo de ma mère et l'amour que j'ai eu pour elle dans deux ou trois générations ? Deux ou trois générations, ce laps de temps, dans le meilleur des cas, qui n'est pas celui de Barthes, où j'ai moi-même des enfants qui, à ma mort, conserveront à la fois la photo et son identification. À défaut d'enfants, c'est ma propre mort qui signera celle de l'image de ma mère. En contemplant la photo de ma mère âgée de 6 ans, quand elle fréquentait l'école primaire de la rue de Tourtille à Paris, au début des années 30, comme Barthes le faisait de celle de sa mère âgée de 4 ans dans le jardin d'hiver, c'est tout ça que je lis. Je lis à la fois qu'elle va mourir, je lis qu'elle est morte, je lis que je vais mourir, je lis que mon souvenir, c'est-à-dire mon amour, autrement dit la légende, au sens de légender et commenter affectivement une photo, vont mourir. Barthes, devant la photo de ma mère enfant, je me dis, elle va mourir. Je frémis, tel le psychotique de Winnicott, d'une catastrophe qui a déjà eu lieu. Que le sujet en soit déjà mort ou non, toute photographie est cette catastrophe. C'est évidemment le hasard qui a fait que Barthes emploie ici le mot « catastrophe », mais c'est une étrange résonance. Il y avait naguère à Paris un restaurant yiddish qui a hélas fermé ses portes, près de la place Sainte-Catherine. Il s'appelait Esther Street, jouant de la paronymie avec la rue juive du Lower East Side de New York. S'il a cessé un jour son activité, c'est probablement en raison de l'étrange et angoissante atmosphère qui y régnait. Les murs étaient recouverts de photos de classe, d'avant-guerre, représentant de très jeunes enfants du quartier. Et tout en mangeant un bouillon de poule aux raviolis, du foie haché ou des boulettes de poisson, on tentait désespérément de chasser en soi la pensée que bon nombre de ces enfants avaient disparu dans la catastrophe. À ce titre, la photo d'amateur, dite photo de famille, a le même statut que la littérature ou l'histoire. Leur vocation est de prendre en charge les morts et les morts en sursis que nous sommes. Rendre vie, sauver de la mort, fixer à jamais le souvenir des êtres. La même vocation et le même destin, l'échec. Je n'oublierai jamais l'expérience que j'ai faite un jour d'une vision d'horreur dans un lieu parisien au demeurant agréable, le marché du livre d'occasion du square Georges Brassens à Paris. Une montagne de livres de seconde main vendus au poids. J'associais spontanément cette vision avec la montagne de Schmates, qui se trouvait en permanence dans la remise de mes grands-parents Davidovitch au fond d'une cour de la rue Desnoyers à Belleville dans les années 50, et aussi avec la montagne de cadavres de Bergen-Belsen que nous montra Nuit et brouillard d'Alain Resnais. Chacun sa paranoïa. De même qu'il parle de catastrophe à propos de la mort que signe la photographie, Barthes parle du déchet, ce à quoi à terme la photo va se réduire. Le déchet, c'est aussi le rêve non interprété. C'est aussi, selon Herman Melville, la lettre morte, dans les deux sens du mot. Ces lettres qui ne sont jamais arrivées à leur destinataire, car ceux-ci sont décédés. Elles sont donc retournées dans un bureau ad hoc de l'administration, où elles sont classées, répertoriées et finalement brûlées. Et c'est aussi nos photos de famille que quelqu'un, un jour, sur un marché aux puces, pourra acheter pêle-mêle, par kilo, et qui seront devenues des visages sans nom et sans légende. Et c'est aussi nos lettres de famille, nos lettres d'amour, lettres de parents, d'enfants, de frères et sœurs, achetables au kilo, qui seront devenues, elles, des noms sans visage. Et chez Proust, dira-t-on, ce serait quoi le déchet ? D'abord, classiquement, le temps perdu, le temps à la fois qu'on perd et l'oubli et sa réparation, la mémoire involontaire. Mais surtout pour moi, c'est le nom de Charles Haas, voire de Swann lui-même, ce qui est très paradoxal. Le beau, l'élégant Swann, le cygne, un déchet. Oui, le narrateur devient écrivain, m'a-t-il semblé, dans l'abandon, dans le rejet, dans la relégation, voire dans l'entreprise de souillure, de dégradation à laquelle il se livre en évoquant l'agonie de Swann, avec sa barbe et son grand nez juif de prophète. Autoportrait, comme on sait, prophétique, de Proust lui-même sur son lit de mort, comme s'il se vengeait. Sauver de la mort et fixer le souvenir des êtres, c'est là par principe le propre de la discipline historique, selon Michelet. Mais l'histoire est vouée à l'anonymat des générations qui se succèdent. Anonymat collectif, c'est, si l'on peut dire, une fosse commune. L'histoire ne sauve que du collectif, du pluriel, alors même que sa raison d'être est de nous acquitter, selon le mot de Paul Ricoeur, d'une dette à l'égard des morts. En ce sens, l'histoire piétine les morts dans leur individualité singulière. Elle en fait un pactage générationnel. Notre vie, dans son déroulement, est ponctuée en principe par la mort de ceux qui sont nés avant nous. Nous existons de cette mort en tant que survivants. Ces mots sont aussi de Paul Ricoeur. On se souvient de Charlus dans Le Temps retrouvé, lors de la fameuse matinée chez la princesse de Guermantes, se réjouir bruyamment et avec sadisme d'avoir survécu aux morts de ses amis et de sa parentèle. C'est avec une dureté presque triomphale qu'il répétait, sur un ton uniforme, légèrement bégayant et aux sourdes résonances sépulcrales, « Annibal, Annibal de Bréauté, mort, Antoine de Mouchy, mort, Charles Swann, mort, Adalbert de Montmorency, mort, Boson de Talleyrand, mort, Sosthène de Doudoville, mort. » L'intéressant ici, c'est la liste même que dresse Proust, au-delà de ce que cette même liste représente pour le personnage de Charlus. L'inscription des morts dans un livre dont Proust pense qu'il lui survivra, du moins un temps, et qu'ainsi ses noms, inscrits dans cette page, survivront du même coup. C'est donc peut-être la littérature et non l'histoire qui prend le plus efficacement en charge la mémoire et le nom des morts. Avec cette réserve que j'ai déjà signalée, que les noms propres y ont eux-mêmes un statut de fiction par lesquels les noms réels sont anonymés, à jamais cryptés. De sorte qu'au total, aussi bien l'histoire que la littérature échouent à désanonymer. Le seul livre, hors littérature et hors histoire, qui échappe à la fatalité d'oubli, c'est celui de Serge Klarsfeld, que la philosophe Sarah Kaufman appelait un mémorial sublime, et dont on peut dire qu'il constitue la matrice minimaliste de 75 000 romans potentiels de Patrick Modiano, et dans lequel s'initie précisément un de ses derniers livres, le seul sur la couverture duquel il n'a pas porté la mention « roman » d'Aura Bruder. Puisque le principal moteur de toute littérature, écrivait-il dans le journal Libération, est souvent la mémoire, il me semblait que le seul livre qu'il fallait écrire, c'était ce mémorial, comme Serge Klarsfeld l'avait fait. En somme, le seul livre qui vaille la peine, c'est ce livre des noms, noms des morts, noms des déportés juifs de France. Une tombe enfin pour eux qui n'en eurent pas, notamment les enfants. Et c'est bien le mémorial des enfants dont Modiano rend compte dans cet article de Libération. Serge Klarsfeld y a rassemblé 1500 photos. Par là, il réparait ce que j'appelais l'effacement, la déliaison tragique du visage et du nom. Le livre de Modiano, intitulé Dora Bruder, fonctionne de la même façon, de même que ce petit livre relique dont je vous parlais. Une tentative pour désanonymer certaines images, recoller ensemble pour que ça dure un peu plus longtemps. Un nom, un visage et une légende. Le texte ici empêche l'image d'aller vers son destin fatal de déchet. Une tentative enfin de fournir à l'image un tombeau, dans le sens que ce mot a en littérature, comme Mallarmé parlait du tombeau pour Anatole, son fils, ou du tombeau d'Edgar Poe ou de Baudelaire. J'aimais, pour conclure, l'hypothèse selon laquelle la littérature serait à l'histoire ce que le christianisme serait au judaïsme. Le christianisme serait du côté de la littérature, le judaïsme du côté de l'histoire. Avec le christianisme, ce sont les âmes singulières qui seront sauvées, des personnes. Dans l'eschatologie juive, en revanche, c'est la communauté elle-même. Quand le Messie viendra, ce sont tous les Juifs qui ressusciteront, toutes les âmes juives, les avatars de celles qui furent réunies jadis au mont Sinaï. Mais pour le non-croyant que je suis, le doute persiste. Doute que la littérature répare l'effacement, annule l'oubli, pourquoi pas surmonte la mort. L'Ecclésiaste l'a dit depuis longtemps, nul souvenir ne subsiste des anciens, de même de leurs plus récents successeurs, il ne demeurera aucun souvenir chez ceux qui viendront plus tard. Exactement la leçon qu'on lit à la fin du Temps retrouvé, où le narrateur, à la matinée du Prince de Guermantes, entend que la mère de Gilberte, dans la première partie de son existence, avait épousé, je cite, « un aventurier du nom de Swann, mais qu'ensuite elle avait épousé un des hommes les plus en vue de la société, le comte de Forcheville ». Assertion qui semble non seulement erronée au narrateur, mais monstrueuse d'absurdité. Voilà, j'ai quand même réussi à terminer par celui que nous admirons tous ici, Proust, le Proust que nous partageons, le Proust aussi que nous avons la prétention de côtoyer personnellement. Je vous remercie.
Merci beaucoup de cet exposé qui a touché beaucoup de thèmes qui nous importent dans ce séminaire et apporté un certain nombre de noms dont je suis heureux qu'ils aient été évoqués ici, comme Boltanski ou Modiano, dont les œuvres touchent à tous ces sujets. J'aimerais bien vous poser des questions sur ce livre, puisque vous me l'avez envoyé, que je l'ai lu récemment, et que bon, j'avais un petit peu parlé ici de ce genre qui a l'air de se répandre, d'être de plus en plus défini, qui est le récit de vie avec photographie. Quand vous l'avez entrepris, il y avait des modèles. D'où vous venez l'idée de faire, enfin, que bon, ce n'est pas une autobiographie, puisque justement, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un récit de vie. La photographie permet ce caractère épisodique que j'évoquais tout à l'heure, puisque chaque photographie introduit une plongée, un commentaire particulier. Et vous pouvez nous en parler un petit peu du projet lui-même.
Alors, il n'y a pas eu de modèle de, de fiction littéraire. Il y a eu une conférence à laquelle j'avais assisté, un exposé d'une chercheuse américaine qui s'appelle Marianne Hirsch, Marianne Hirsch en anglais, sur la photo, précisément, et notamment sur la photo familiale. Et la photo familiale liée à la guerre, liée aux souvenirs, liée à la disparition, liée à l'effacement, etc., etc. Au fond, elle reprend un peu Roland Barthes, mais d'une façon plus, encore plus intime, plus personnelle, et plus douloureuse encore, si je puis dire. Et plus collective, je dirais, plus voilà, liée à un groupe. Je crois que Marianne Hirsch est d'origine juive hongroise. Et pendant son exposé, elle diffusait des photos comme ça sur le mur, et notamment une photo, une carte dont je parle, une carte ouverte qu'on envoyait en France à l'époque de Vichy, où on ne pouvait pas envoyer de plis scellés. Bon. Et je me dis, mais bon, elle parle d'une chose alors qu'elle n'était pas en France. Pourquoi montre-t-elle cette carte postale-là, avec l'effigie, avec le timbre de Pétain? J'ai la même chose chez moi. Et je me suis dit, mais d'un seul coup, le livre était fait. En une seconde, comme ça m'est arrivé plusieurs fois, le livre était fait tout de suite dans ma tête. Et je n'avais plus qu'à l'écrire en quelques semaines. Voilà l'origine du projet. C'est parti donc d'une photo.
Je connais bien Marianne Hirsch. Ah oui, oui. Je dis comme collègue aux États-Unis. Effectivement, elle a travaillé sur les.
Et c'est dommage que son livre ne soit pas traduit en français.
Il n'est pas traduit. Ah oui. Il est sur les photos de famille, voilà. Et sur la Shoah. En fait.
C'est ça.
Oui, c'est pas particulièrement. Et êtes-vous depuis sensible à la diffusion de ce genre ou ça?
Il me semble qu'Annie Ernaux a fait quelque chose comme ça. C'est-à-dire que l'idée de mettre des photos dans un livre est aussi vieille que la photo, pas que le livre, mais que la photo. Mais l'idée, au fond, que ce soit les photos ou les documents, pas seulement les photos, mais le document qui prime et qui importe, ça, c'est nouveau. C'est ça, la nouveauté. Ce n'est pas la photo comme illustration du propos textuel, mais c'est le texte qui illustre, qui commente de façon très subjective le document qu'on veut exhiber, lequel document d'ailleurs n'a rien, comme je l'ai dit, n'a rien de spectaculaire. Enfin, il est lié pour soi à une émotion. Le problème est, une émotion est-elle immédiatement transmissible? Les photos que Barthes nous donne à voir, au fond, on sait que c'est important pour lui, et c'est ça qui nous émeut. Mais ce ne sont pas les photos elles-mêmes qui nous émeuvent.
Ce sont des photographies banales.
Banales, voilà. C'est banales. la banalité du quotidien, de la vie,
de l'album,
de la vie réelle, au fond, non héroïque et dans laquelle rien n'advient que de commun à l'espèce humaine. Notamment la mort, oui.
Alors, vous avez, comme le fait Barthes d'ailleurs, associer essentiellement la photographie et la mort. Je me demande si on peut. Enfin, l'autre jour, j'ai aussi entendu un exposé de Bonnefoy qui insistait sur le même rapport de la photographie et de la mort. Ça donne un peu envie de résister à cette thèse. Est-ce qu'on ne peut soutenir que cette thèse de l'essence de la photographie dans la mort?
Il y a aussi la photographie dite artistique par de grands photographes. Là, on parle évidemment de photos confinées dans les boîtes à chaussures des familles et que nous retrouvons des années après, lorsque, comme on dit un peu trivialement, nous vidons un appartement, et nous retrouvons en vrac pêle-mêle des dizaines, des centaines de photos, noir et blanc, dentelées, sépia, tout ce qu'on veut, d'où nous reconnaissons certaines figures, et au contraire, dont la plupart des figures nous sont désormais, et à jamais, indéchiffrables. Donc c'est ça le tragique de la chose.
Oui, vous avez très bien insisté là sur le fait que c'est la perte du nom qui,
La dissociation de l'image
et
du nom.
La photo avec ses visages et l'absence de nom. Je pensais en vous écoutant aussi que, puisque vous avez parlé de Barthes et de Proust et de la photographie, que le dernier séminaire que Barthes devait faire et qu'il n'a pas fait ici, c'était un séminaire qui était prêt sur les photographies de Proust.
Ah oui. Oui, j'ai vu ça.
En 1980, le séminaire qui devait commencer juste après l'accident qu'il a eu et dont il est mort était un séminaire sur les photographies de Proust. Et avec cette préoccupation que vous avez indiquée ceux qui subsistent et ceux qui disparaissent.
Oui, c'est très intéressant et un peu étonnant d'ailleurs, cet intérêt de Barthes pour... Enfin, à la fois étonnant et pas étonnant, cet intérêt de Barthes pour les photographies proustiennes de la sociabilité de Proust. Étonnant parce que, pour moi, Barthes était lié à cette théorie des années 70 où l'on devait dissocier l'anecdote biographique et le texte, voilà, la sacralité du texte et la littérarité, la clôture. Bon. Et au contraire, Barthes n'a eu de cesse que de s'éloigner de ce diktat-là. Parce qu'au fond, les photos de Proust, je m'y suis intéressé aussi. Est-ce que c'est vraiment intéressant?
C'est-à-dire qu'il s'y intéressait, je crois qu'il avait écrit dans les années 60, en 65 ou 66, quand la biographie de Painter avait été publiée, un article, donc c'est bien avant, il avait écrit un article sur cette biographie de Painter, qui est un grand éloge.
Oui, ce livre.
Bon, éloge un peu pervers, sans doute, mais avec... l'argument qu'on lisait la vie de Proust comme si elle était au fond la suite de son œuvre.
Absolument.
Donc les photographies s'inscrivaient dans ce projet-là. Les photographies devenaient proustiennes.
Oui, oui.
Plutôt que d'être antérieures et relevées de la biographie qui précède l'œuvre, on les lisait comme...
Mais
comme
ça, c'était l'art de Painter, précisément. C'est l'art et le talent de Painter que d'avoir raconté cette vie-là. Pour moi, c'est la biographie la plus admirable. La première, sans doute la plus fausse scientifiquement, mais une biographie admirable. Les autres ne sont qu'universitaires, excusez-moi. Oui. Même si elles cherchent la véracité.
Oui, les autres sont sûrement plus sûrs. Mais elles ne se lisent pas comme un roman. Voilà. Alors qu'en effet, la biographie de Painter se lit... Enfin, il y a une dimension très romanesque dans la façon dont elle est racontée, avec justement une psychologie que n'acceptent pas les autres. Dans votre comparaison finale, je pensais du livre d'un autre grand livre... que j'aime beaucoup, de quelqu'un que j'ai aussi eu comme collègue, le Zahor de Yerushalmi, à propos de la comparaison que vous faisiez de l'histoire et du judaïsme par opposition au christianisme et à la littérature.
Bon, c'est une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut.
Parce que, bon, évidemment, ce qu'essaye de montrer Yerushalmi, c'est que la conception de l'histoire elle-même n'est pas la même.
Voilà. Probablement, mais là, ce qui m'intéressait, c'est par rapport à cette idée d'effacement ou de rédemption, enfin de sauver le nom des morts. Voilà, c'est le collectif et le singulier, quoi. Voilà, c'était ça, au fond, la distinction, peut-être un peu trop grossière entre les deux, entre l'histoire et la littérature, entre le christianisme et le judaïsme. Mais il me semblait que le judaïsme était d'essence plus collective et communautaire, et le christianisme mettait l'accent sur la personne, sur la faute personnelle, sur le pardon personnel, etc., sur la prière personnelle, alors que par exemple la prière dans le judaïsme, elle est collective, enfin voilà.
Sinon que l'histoire récente a eu de plus en plus la tentation d'aller vers une histoire d'individu.
De filiation, enfin.
Ou d'individu, ou de. Oui, ou par exemple, l'histoire d'Alain Corbin, c'est une histoire qui n'est pas très éloignée de Dorin Bruder, d'une certaine façon, dans le projet.
C'est tout à fait vrai, oui, absolument.
Donc c'est la tentation, chez les historiens. Oui.
On va vers davantage de
la même de
singularité.
Faire l'histoire, d'une singularité.
Oui.
L'histoire documentée.
Et puis l'histoire devient plus littéraire, d'une certaine façon. Oui. Puis un souci de l'écriture, je crois.
Oui, et puis, tous les travaux insistant sur la dimension littéraire de l'histoire, narrative de l'histoire. Bien, je crois qu'on va vous remercier de nouveau de ce bel exposé.